Le livre de Leïla Slimani dont on parle ce matin s'intitule « Sexe et mensonges, la vie sexuelle au Maroc ». Il sortira le 6 septembre prochain aux éditions Les Arènes. « Parole d'honneur » au pluriel, c'est le titre également d'un roman graphique que vous publiez toujours aux éditions Les Arènes, Leïla Slimani, avec Laetitia Corinne. Léa Salamé est avec moi jusqu'à 9h, on va vous co-interviewer maintenant avec aussi les auditeurs d'Inter. Bonjour Diane, bienvenue.
Bonjour.
Nous vous écoutons.
Bonjour. Alors moi, je voulais d'abord dire à Leïla Slimani que j'avais été émue par son précédent livre. Et puis, je vous ai posé la question concernant la misère sexuelle des musulmans et au Maroc et dans les autres pays. Est-ce que c'était pas aussi un des terreaux du djihadisme ?
Merci pour cette question, Diane. Leïla Slimani, pardon, vous répond.
Bonjour. Écoutez, je peux pas vous faire une je suis pas complètement persuadée. Je pense que c'est un des facteurs qui sans doute participe parfois de la radicalisation de certaines personnes, mais je crois pas qu'on puisse en faire une explication systémique ou systématique du djihadisme. Je me souviens d'avoir lu dans le Monde il y a quelques mois un très très bon papier sur des lettres qui avaient été envoyées par des personnes radicalisées à leur famille, et puis il y avait eu une analyse de ces lettres où effectivement on voyait beaucoup de choses autour de la sexualité, et on voyait à quel point ce qui peut nous paraître parfois étrange ou incroyable, à quel point cette promesse par exemple de retrouver des femmes vierges au paradis, d'avoir une sexualité comme ça merveilleuse, épanouissante, et ben était véritablement tenue, que les gens y accordaient une véritable importance, ça peut nous paraître incroyable. Mais je ne crois pas que la misère sexuelle explique tout. La misère sociale est sans doute une explication plus pertinente que la misère sexuelle.
Léa Salamé,
un sondage édifiant, stupéfiant que vous citez dans votre livre, Leïla Slimani, un sondage de l'hebdomadaire marocain Tel Quel, réalisé en 2014. 84% des Marocains ne sont pas favorables à la liberté sexuelle, 83% sont contre la tolérance à l'égard de l'homosexualité, et les femmes sont encore plus conservatrices puisque 90% des femmes marocaines interviewées sont contre la liberté sexuelle. Alors, j'entends ce matin que vous voulez faire bouger les mentalités, mais comment le faire quand vous voyez que ce sondage, le résultat de ce sondage, 9 femmes sur 10 sont contre la liberté sexuelle.
Leïla Slimani.
Ben, je vous répondrai que 9 femmes sur 10 sont contre la liberté sexuelle, mais que 9 femmes sur 10 perdent leur virginité avant le mariage. C'est le paradoxe, en fait. C'est-à-dire que les gens sont contre la liberté sexuelle, mais sans le savoir, ils sont eux-mêmes des acteurs de la liberté sexuelle. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est de dire comment est-ce que vous pouvez continuer à défendre des valeurs qu'en fait, vous ne vous appliquez pas. Et le véritable problème de ces lois, c'est qu'en fait personne ne les applique. Donc on est véritablement dans ce qu'on peut définir comme l'arbitraire. C'est-à-dire qu'on a des lois qui seront appliquées parce que on a envie, un jour votre voisin n'est pas content de la façon dont vous vous comportez, donc il va aller vous dénoncer et dire que vous recevez des hommes. Alors que y a d'autres gens qui ont cette liberté sexuelle, qui l'exercent et qui ne seront jamais dérangés.
Est-ce que les femmes marocaines, les femmes arabes sont autant responsables, et peut-être même plus responsables que les hommes de ce qui se passe?
Écoutez, moi, je suis écrivain, je suis pas juge, donc j'essaye de pas juger les gens et de pas montrer les gens du doigt en disant vous êtes responsable de ci ou de ça. Mais je pense qu'en tout cas, elles ont un rôle à jouer qui est fondamental. Le premier rôle, c'est d'abord de briser la loi du silence, parce que je pense que le silence isole beaucoup les femmes et que le silence fait que les femmes aussi intériorisent les normes patriarcales et finissent par considérer que c'est le seul moyen de s'en sortir, c'est de faire comme on leur a dit de faire. Donc moi, c'est pour ça que j'écris, c'est pour ça que j'ai voulu faire entendre ces femmes, parce que je pense que quand on parle et quand on entend aussi les autres, on se dit finalement je suis pas seule, il y en a d'autres qui vivent la même chose que moi, donc ça c'est extrêmement extrêmement important.
On retourne au standard. Bonjour Carole.
Bonjour.
Vous nous appelez Lille, bienvenue sur Inter.
Bon, merci. J'aurais voulu savoir quel était le regard du Coran vis-à-vis de la femme, parce que les Marocains que je connaisse respectent beaucoup leur mère. Mais on dirait que c'est plus une femme, c'est une maman.
Merci Carole pour cette question. Leïla Slimani vous répond.
Alors je ne suis pas non plus, je ne fais pas non plus d'exégèse. Alors voilà tout ce que je ne fais pas. Ce livre, c'est pas un livre qui essaye d'analyser quelle est la place des femmes dans l'islam. Au contraire, ce que j'essaye vraiment de montrer aussi, parce que je me suis rendu compte de ça ces dernières années, moi vivant en France, c'est à quel point on a tendance aujourd'hui à beaucoup essentialiser non seulement les musulmans, mais les sociétés musulmanes, et à oublier que la société marocaine, par exemple, c'est une société qui a sa propre singularité, et que les Marocains, bien sûr, sont des musulmans. musulmans, mais ce ne sont pas que des musulmans, ce sont aussi des citoyens. Et que, évidemment, vous ne pouvez pas comparer l'islam d'Arabie Saoudite avec l'islam du Maroc, avec l'islam d'autres pays. Ça ne vaut pas en tout temps et en tout lieu. Donc, évidemment, l'islam... surtout le patriarcat a influencé le rapport que les hommes ont avec les femmes. Et je vous dirais que certains Italiens du sud de l'Italie ou certains Espagnols voient leur maman de la même manière que des Marocains. Donc cette question-là, elle concerne finalement toute la Méditerranée. Mais c'est vrai qu'on désexualise la femme une fois qu'elle est devenue mère. Si vous voulez, la femme qui fait peur, c'est la femme célibataire. Quand la femme est une sœur, quand elle est une mère, quand elle est une épouse, on l'accepte parce que d'une certaine manière, elle est rentrée dans un... Voilà, elle est rentrée dans un carcan, on peut la contrôler, on contrôle son corps, mais la femme célibataire et indépendante financièrement, c'est une femme qui fait peur parce que c'est un objet tout à fait nouveau.
Marie-Chantal, bonjour.
Bonjour.
Vous nous appelez de Paris, bienvenue.
Bienvenue, oui, merci. Bonjour à toute l'équipe et à Madame Slimani, dont j'apprécie beaucoup le style. J'ai lu vos deux derniers livres. Alors ma question est la suivante, c'est est-ce que vous ne craignez pas, vous ne redoutez pas pour votre sécurité, parce que compte tenu du contexte actuel économique, enfin contexte politique plutôt, puisqu'on vit des actes terroristes un peu partout dans le monde, particulièrement en Occident, voilà, est-ce que vous avez écrit ce livre en mesurant l'impact compte tenu de vos origines, de votre culture.
Merci Marie-Chantal. Leïla Slimani vous répond.
Mais qui ne craint pas pour sa sécurité ? J'allais dire, aujourd'hui de toute façon, je pourrais très bien être en train de me promener quelque part dans le centre-ville d'une ville touristique ou en bas de chez moi et me faire écraser par une camionnette ou me faire tirer dessus. Donc de toute façon, si vous voulez, je trouve qu'au contraire...
Sur le livre, je pense que c'est ce
non,
que
mais moi,
souhaitait demander
ça relativise,
aussi...
Mais ça relativise, à la fois ça le relativise et ça donne encore plus de sens à ce que je fais. D'une certaine façon, je considère que de toute façon, la sécurité de chacun est aujourd'hui en danger. Et par ailleurs, je pense qu'au contraire, il faut d'autant plus défendre ce qui, pour moi, ce que je défends dans ce livre, c'est-à-dire la joie, l'appétit de l'autre, la liberté, le fait qu'on peut vivre sa foi sans régir celle des autres, le fait que la foi, justement, ne doit pas faire l'économie de la raison, qu'on a le droit d'user de son bon sens, d'user de son esprit critique. Et
comment le livre peut être reçu au Maroc, d'après vous ?
Mais moi, je pense que je vais me concentrer
sur ce... Les romans, c'est très bien.
Non, mais
là,
voilà,
c'est autre chose.
Hein.
C'est un essai qui prend le problème de front.
Les gens vont beaucoup parler de tous les gens qui me critiquent, de tous les gens qui me menacent et tout. Et je suis persuadée qu'on parlera beaucoup moins des gens qui me soutiennent. Mais il y en aura beaucoup aussi. Il y aura aussi beaucoup de jeunes, beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes garçons aussi qui me remercieront. Parce que, vous savez, les gens sont fatigués, comme je le disais, de cette hypocrisie. Les gens en ont marre de la langue de bois. En ont marre qu'on leur fasse passer les vessies pour des lanternes. Ils ont envie de vivre... Vous savez, les Marocains sont des gens comme tout le monde. Ils ont envie de dignité, ils ont envie de vivre heureux, ils ont envie que leurs enfants, et notamment leurs filles, vivent en sécurité, vivent librement. Et voilà, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seront très favorables à ce que j'écris.
Est-ce que vous avez reçu des menaces ?
Je ne sais pas, parce que je regarde pas. Voilà.
C'est vrai.
En tout cas, on m'a pas laissé de textos sur mon téléphone pour le moment, mais en tout cas,
les réseaux sociaux,
je ne regarde pas. Non, ça
les réseaux sociaux,
pas.
Vous regardez pas. Les critiques, vous voulez pas les voir.
Bah, les critiques, si. Les critiques des journalistes, des critiques littéraires, ça m'intéresse. Mais voilà. Mais les gens qui vont simplement me menacer, ça ne m'intéresse pas. Les gens qui veulent avoir des débats avec moi, il y a aucun problème. Et comme je le disais tout à l'heure, je peux tout à fait concevoir qu'on ne soit pas d'accord avec moi. Moi, que des gens aient envie de garder leur virginité jusqu'à leur mariage, etc. Je trouve ça tout à fait défendable, il n'y a aucun problème, mais je veux pouvoir défendre mon point de vue à moi aussi.
Allez, retour au standard. Zachary, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, on t'écoute.
Leïla Slimani a déjà publié deux romans. Le dernier, Chanson douce, était assez ancré dans le réel. Et là, vous publiez un essai, une étude. Donc, je voulais savoir, c'était dans quelle mesure est-ce que vous voyez la fiction comme une explication du réel ? Et qu'est-ce que vous avez pu dire dans l'enquête que vous publiez là qui vous aurait été impossible de restituer dans un roman ? Comment est-ce que c'est le choix du genre ?
Merci beaucoup, Zachary, pour cette très belle question. Leïla Slimani ?
Oui, merci beaucoup. Oui, c'est une très belle question, très, très complexe. Écoutez, j'aurais voulu être peut-être une assez bonne romancière pour raconter tout ce que je raconte dans ce livre, Sexe et mensonges, dans un roman. Peut-être que j'essaierai de le faire. Ce qui est extraordinaire dans un roman, c'est qu'il y a une place justement pour l'ambiguïté, c'est qu'il y a une place pour la complexité de l'âme. que peut-être là, je n'ai pas pu totalement exercer. Mais en même temps, vous savez, je pense que de toute façon, je disais tout à l'heure qu'on manque de discours sur la sexualité. Je pense que de toute façon, quel que soit le discours qu'on a, que ce soit un discours de fiction ou comme ici un essai, le discours, ça permet de restaurer d'une certaine façon la dignité des individus. Raconter un individu, raconter la complexité d'une vie individuelle, raconter les contradictions qui peuvent vivre à l'intérieur de l'âme de quelqu'un, c'est de toute façon quelque chose d'absolument essentiel. Alors je le fais parfois par la fiction, mais là j'avais envie qu'on entende des voix dont beaucoup de gens disent qu'elles n'existent pas. Ah non, mais c'est pas vraiment comme ça et tout. Et je veux que les gens ne puissent pas dire qu'ils ne savaient pas que ça existait et qu'ils ne l'avaient pas entendu.
Est-ce qu'il y a un point commun entre toutes les femmes que vous interrogez, que vous avez rencontrées pour ce livre, toutes les femmes marocaines, quel que soit leur âge et leur condition ?
Moi, ce qui m'a marqué, c'est leur rapport justement à l'émancipation. C'est d'avoir le sentiment que beaucoup de femmes font un chemin vers l'émancipation et qu'ensuite, elles finissent soit par le regretter, soit par se dire que ça ne vaut pas la peine, que le combat est trop difficile. C'est le sentiment qu'en tout cas, les femmes ne se sentent pas soutenues dans leur désir d'émancipation, ni par la société, ni par les pouvoirs publics, ni par la culture institutionnelle. Donc, c'est plutôt ça, oui, qui m'a marqué.
Léa ?
Oui, je voulais quitter le Maroc quelques minutes avec vous, Léa Slimani, pour vous entendre, pour avoir votre regard sur Emmanuel Macron, que vous avez soutenu pendant la campagne. Vous avez dit, je le soutiens pour deux raisons. D'abord, pour faire battre Marine Le Pen, et puis par adhésion. Vous disiez, vous louiez la jeunesse, la modernité d'Emmanuel Macron. La France a des atouts, il faut les mettre en avant. Emmanuel Macron le fera, aviez-vous dit. 3 mois après, vous le pensez toujours, il peut le faire.
Écoutez, déjà, bon, 3 mois après, il y a deux mois de vacances, voilà, où il ne s'est pas passé, grand-chose. Je crois quand même un petit peu au temps long. Je pense qu'on est très, très impatients. Je suis comme tout le monde, hein, j'attends. Je ne sais pas du tout ce qui va en ressortir, mais je veux continuer à être optimiste. Je ne veux pas, au bout de 2 mois, tout de suite, commencer à dire qu'il ne s'est rien passé, et comment et pourquoi. Donc, j'attends de voir.
Et vous comprenez le désamour, cette chute vertigineuse dans les sondages ? Vous trouvez que les Français sont trop impatients ? Ou ingrats ?
Non, je trouve que les Français sont marrants, quoi. Voilà, ils sont fous, ces Français.
C'est vrai qu'il vous a proposé d'être ministre de la Culture et que vous avez refusé ?
Je sais pas.
Comment vous pouvez ne pas savoir si on vous a fait une proposition,
Léa Slimani ? Je suis très mal informée.
Ça veut dire oui, ça. Ça vous aurait pas plu d'être ministre de la Culture ?
Je crois qu'on a une très bonne ministre de la Culture. Voilà.
Donc vous avez dit non.
On a une très bonne ministre de la Culture et je pense qu'elle va faire des choses extraordinaires.
Quelle est l'éducation donnée aux filles et aux jeunes filles marocaines en particulier ? L'éducation sexuelle, vous demande Colette ce matin sur France Inter.
Écoutez, l'éducation sexuelle à l'école, elle se résume à l'éducation du corps. Enfin, c'est la biologie. On apprend comment on fait des enfants, mais de manière très très froide. Mais il n'y a pas d'éducation sexuelle. Vraiment, ça aussi, c'est une autre chose qui m'a marquée dans le livre, c'est de voir à quel point dans tous les milieux, il y a une absence totale du discours sur la sexualité entre les parents et les enfants ou entre les enseignants et les enfants. Alors dans certains magazines féminins, mais qui sont plutôt des magazines en français et qui sont plutôt lus par une petite frange de la société, il y a des choses sur la sexualité. Et puis Internet a énormément changé les choses puisque maintenant les gens vont chercher l'information. Donc l'éducation sexuelle, elle se fait finalement, chacun va choisir son éducation sexuelle, mais le problème aussi, c'est qu'on va évidemment beaucoup vers la pornographie, vers des choses comme ça qui ne sont pas forcément expliquées. Et je pense qu'une partie de la violence sexuelle qu'on peut voir aujourd'hui s'exercer, elle vient aussi de là, de l'absence d'éducation sexuelle et du fait qu'on n'apprend pas aux gens que, par exemple, la violence n'a rien à faire dans la sexualité et que la seule règle dans la sexualité, c'est le consentement de deux adultes.
Est-ce que les droits sexuels, ce que vous appelez les droits sexuels, est partie intégrante, dites-vous, des droits de l'homme ? Bon, ça va arriver un de ces jours prochains, peut-être au Maroc, où il va falloir vraiment, vraiment se battre longtemps.
Mais bien sûr que ça va arriver. Moi, je suis persuadée que ça va arriver. Mais il va falloir se battre. Il faut pas avoir peur de se battre. Et puis surtout, il faut pas céder aux deux types de critiques. C'est-à-dire que faut pas céder aux conservateurs qui disent c'est très mal, c'est immoral, c'est répugnant. Mais faut pas céder non plus à une partie de l'élite et des modernistes qui disent c'est pas politiquement correct. Et pourquoi tu abîmes l'image du Maroc? Et pourquoi tu vas laver notre linge sale devant les autres? Donc il faut céder à aucune des personnes qui veulent nous inciter au silence. Il faut surtout parler.
Une question rapide, Thomas Legrand.
Vous dites que ça va évoluer, mais on a l'impression, c'est l'impression générale, que ça évolue dans l'autre sens quand même. L'idée générale, c'est que ça empire. À vous écouter depuis ce matin, Ça régresse.
Mais par rapport à quoi? Est-ce que ça régresse par rapport aux années 50? C'est quoi de la sexualité des Marocains dans les années 50?
Vous avez raison, mais c'est l'impression. Donc vous
combattez
l'impression.
Non, mais il faut prendre un peu de recul et il faut regarder ce que c'est aujourd'hui. Par exemple, l'âge du mariage, il a reculé de 20 à 28 ans aujourd'hui au Maroc. On se marie en moyenne à 28 ans. Aujourd'hui, 25% des foyers sont dirigés par des femmes, sont des chefs des femmes chefs de famille qui payent leur loyer, qui payent l'éducation de leurs enfants. Donc ça évolue. Énormément. Et il faut quand même regarder les choses sur un temps un peu plus long. Il y a des retours de balancier, évidemment, parce que les hommes, ils se sentent menacés par ces changements, parce que justement, il n'y a pas d'éducation, parce qu'à l'école, on n'explique pas aux garçons que c'est normal aujourd'hui, que leur femme, elle sorte, elle travaille, que leur femme, elle a un corps, que ce corps, il faut le respecter, que c'est pas un espace que l'homme peut venir investir comme il veut, n'importe comment. Donc ça évolue. Et moi, je regarde les choses, là encore, on va dire que je suis une optimiste béate, mais je regarde les choses avec optimisme, parce qu'il faut un peu regarder les choses sur le temps long. Moi, j'en ai marre qu'on soit toujours en train d'analyser les sociétés, les choses, les événements sur un temps très court. Et il faut prendre un petit peu de recul.
Une dernière question pour vous, Leïla Slimani, avec Augustin Trapenard. Bonjour Augustin.
Bonjour Nicolas.
Augustin de Paris, vous avez la parole.
Bonjour Leïla Slimani. Une question d'écriture, une question sur la représentation, en l'occurrence des femmes. Moi, ce qui m'a interpellé dans votre livre et dans la bande dessinée qui l'accompagne, c'est ce que vous racontez sur ce qu'on attendait de vous, romancière d'origine marocaine. La vision sensuelle, la vision exotique, la vision orientaliste de la femme, la vision occidentale, en fait, fantasmée de la femme arabe. Est-ce que c'est aussi contre ça que vous écrivez ?
Leïla Slimani.
J'écris en tout cas contre toutes les représentations, contre tous les clichés, contre tout ce qu'on peut attendre de moi. J'écris pour surprendre, j'écris pour déjouer les attentes et pour montrer encore une fois que, comme je le disais tout à l'heure et comme j'essaye de le marteler, les Maghrébins, les Arabes, les musulmans sont aussi des gens qui ont accès à l'universel, qui peuvent raconter d'autres histoires, sont des êtres de raison, qui peuvent avoir un horizon plus large et plus grand que seulement l'islam et que ce à quoi on les ramène tout le temps, une espèce d'orientalisme ou d'Orient fantasmé. Donc c'est contre ça que j'essaye effectivement d'écrire.
Et pour essayer de, faire revenir dans la société marocaine, ce que vous dites aussi sur la tendresse, sur la douceur, sur
le hanan, ce qu'on appelle hanan dans la société marocaine. Et voilà, je pense aussi que cette vidéo qu'on a vue, c'est aussi pour ça qu'elle a beaucoup choqué la société marocaine, parce que c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas. Non seulement cette violence urbaine, mais cette indifférence, le fait que personne n'a rien fait. Et c'est ça qui a aussi beaucoup choqué les Marocains, qui est quand même une société où la notion, même si le groupe est contraignant, le groupe est aussi un espace de solidarité, un espace aussi de non-indifférence, justement. C'est ça qui choque.
Merci beaucoup, Leïla Slimani. Sexe et mensonges, la vie sexuelle au Maroc sort le 6 septembre prochain, publié par les éditions Les Arènes. Parole au pluriel d'honneur. Le roman graphique que vous co-signez avec Laetitia Corinne, également aux Arènes dans la collection BD. Encore merci.
Merci beaucoup.